Et bonsoir à tous, bienvenue dans le débrief de ce Paris Pays de Cassel, ou je devrais dire plutôt Pays de Cassel, Paris Saint-Germain. Bonsoir à Z, bonsoir à Basto, bonsoir à Ekoba, bonsoir à tous dans le chat, on espère que tout le monde va bien. Qu'est-ce que vous avez chacun pensé de ce match pour commencer? Un peu étrange, un peu punching ball qui permet de cacher certaines choses. On y reviendra plus tard, mais dans un premier temps, que penses-tu de tout ça, Z?
Bah, ça dépend, tu veux que je commence par parler du quart de verre plein ou du trois quarts de verre vide?
Comme tu le sens.
Quart de verre plein, c'est enfin un score fleuve. C'est l'attitude de certains joueurs. C'est le fait de, mine de rien, le fait de réussir à se construire certaines certitudes dans une période de doute, même si par ailleurs on verra que les certitudes ne sont pas si solides que ça. C'est l'état d'esprit du match dans son ensemble, avec des joueurs de Castelroussin qui étaient des Castelroussins qui étaient vraiment
Non, c'est
venus pour
Châteauroux
oui,
ça,
des
c'est
joueurs de
Châteauroux les
Castelroussin,
Castelroussins.
ouais, qui étaient venus pour s'amuser, qui étaient vraiment là pour faire la fête, et presque tous les joueurs du PSG qui étaient dans le même mindset, on les a respectés dans l'attitude. Et ce sera tout pour le quart de verre plein. Et je vais laisser les autres enchaîner parce que je pense qu'ils rempliront déjà bien le trois quarts de verre vide. Et je rajouterai ce qui est nécessaire derrière.
Oh bah vas-y, je prends la parole en
Vas-y,
fait dans des
Rakeba, vas-y,
caméras.
tiens, vas-y.
Ouais, bon, moi je sais pas trop quoi en penser. J'ai pas envie d'être méchant ni d'être gentil. En fait, c'est un match. Voilà, il y a tellement un écart de niveau abyssal que c'est compliqué de tirer des conclusions, qu'elles soient négatives ou positives. Bon, on a eu un score fleuve, donc déjà ça c'est bien. On a eu 10-15 minutes un peu compliquées au début, où on est un petit peu suffisant, où on met pas trop de rythme. Ouais, on peut même dire 15-20-25, mais oui, bon. Après, je pense aussi que voilà, les gars en face sont quand même rentrés dans le match à fond les ballons, à 300%. Alors après, avec les quarts de niveau, normalement, tu dois marquer avant, mais bon, voilà, je pense qu'ils ont tout donné et ça s'est vu. Petit à petit, ils ont baissé de régime et ils se sont fait punir sur quasiment chaque action qu'on avait. Donc bon. Nous, on est rentrés un peu facile et eux sont rentrés en sur-régime. Donc, ça a fait que pendant une demi-heure, on a un peu galéré avec des joueurs qui ont dû un peu se régler aussi. La pelouse, voilà, elle n'aidait pas aussi, hein, faut le dire. Elle n'était pas ouf. Donc, pour des joueurs techniques, ce n'est pas non plus facile. Mais voilà, moi, je n'ai pas envie de tirer des conclusions. Bon, Mbappé s'est régalé. Il y avait une belle ambiance. Il n'y a pas eu de blessé, je crois. Nuno, je crois que c'est préservé. C'est tout. Hein. Pas blessé.
Pense.
Voilà, donc pas de blessure. On gagne 7-0. Il y a tellement de gros matchs qui nous attendent et ce sera là vraiment les gros tests, pardon, que voilà, ce match-là, je suis juste content d'avoir vu un 7-0, Mbappé qui en met 5 qui se rapproche de Cavani. Et puis voilà, après, il n'y a pas de blessure et bon, on verra les prochains matchs.
Alors, huitième de verre plein, la chanson de Joe Dassin en hymne de Cassel, le fait qu'il n'y ait pas de blessure, comme a dit Rekoba. Et puis, arrêtez de râler, on a gagné 7-0, on est injouable, à nous la Ligue des Champions! Non, trêve de plaisanterie, Galtier avait dit qu'il mettrait 2 semaines depuis Rennes pour remettre les joueurs, pour leur donner un coup de boost. S'il fait ça le coup de boost, on est mal barré pour la suite. On a peut-être vu 30 premières minutes qui sont, par rapport à un adversaire connu, qui sont peut-être les 30, on n'est peut-être jamais tombé aussi bas sous QSI sur ces 30 premières minutes sur un tel match. Bon, on gagne 7-0, on n'a pas le droit de critiquer quand on gagne, donc je m'arrête là.
Non, non, vas-y, tu peux y aller de ton petit coup de selle si tu veux.
Ouais, ben le souci pour moi, justement, c'est que t'es pas rentré facile. T'es rentré en jouant à fond,
C'est ce
avec
problème.
beaucoup de déchets, et c'était pas rentré facile. Et en fait, tu dis que, Réco, tu dis que c'est un match sur lequel voilà, il y a une telle différence de niveau que tu veux pas tirer des conclusions, mais ça serait très vrai si les matchs d'avant n'avaient pas été des matchs qu'on a connus avant. Le problème, c'est que tu es dans une période où tu es en plein doute, parce que dans le jeu. Ce que tu pratiques depuis le début de l'année civile est très très mauvais. Même tu enchaînes les défaites. Tu es en train de te mettre ta position de leader du championnat en danger. Et tu arrives justement dans un match comme ça. Et pendant une demi-heure, tu es incapable de trouver des décalages, de trouver des solutions,
Des
etc.
frappes.
etc. Il y a des défaillances individuelles qui sont notables. Et c'est quand même. Enfin, pour moi, il y a à dire. En soi, on serait sur une faillite d'un match, surtout que ce serait juste une demi-heure, on aurait eu du mal à rentrer et les autres matchs, on aurait fait le boulot, bah oui, effectivement, là, je serais complètement d'accord avec toi. Mais les circonstances font qu'on ne peut pas avoir une lecture aussi, enfin, on ne peut pas détacher ce match en fait du contexte pour moi.
Non, bien sûr, il y a des points positifs sur lesquels on peut revenir, il y a aussi des points négatifs sur lesquels on va bien évidemment revenir. Tout n'est pas blanc, tout n'est pas noir, il y a toujours un peu de gris, il faut mettre un peu de nuance dans un match. Comme l'a rappelé Recoba, il y a un écart de niveau qui est à souligner. Pour ceux qui se rappellent des ligues à l'ancienne, le Pays de Cassel, ça joue dans l'équivalent de l'ADH. Donc, à un moment, on se devait aussi de performer, de marquer pas mal de buts. On peut aussi, dans un point positif, et on allait y revenir, parler de Mbappé qui marque un quintuplé et qui est le premier joueur de l'histoire du PSG à marquer un quintuplé, me semble.
Ou un des premiers, en tout cas. Mais oui, oui. Vas-y, Vincent.
Non, c'est le premier, je disais juste.
Bah oui, lui, il y a, pour moi, il y a trois joueurs notables. Bon, on va d'abord parler d'Mbappé, il y a Danilo aussi, et puis il y a Vitinha. Mendes, au début, il était trop devant. On avait un peu mal à jouer. C'est vraiment à partir de la 25e, 30e qu'on arrive à jouer avec lui. Au début, j'ai pas trop compris son positionnement. Mais c'était sans doute des consignes, mais l'équipe avait du mal à le trouver. Mais oui, Kylian Mbappé. Ce qui est incroyable avec ce joueur, c'est sa mentalité de gamin dans le bon sens du terme. C'est-à-dire qu'il ne se fatigue jamais de s'amuser et le foot est toujours amusant pour lui, quelles que soient les circonstances, qu'il pleuve, qu'il vente. On se souvient d'un Rabiot qui se plaignait du temps qu'il faisait. Mbappé, il s'en moque. Il fait froid, il fait chaud. S'il peut marquer des buts, s'il peut prendre du plaisir sur le terrain, il a un enthousiasme. Il y a quelque chose qui est très notable avec Kylian Mbappé qui malheureusement met en lumière l'attitude de Neymar sur ce match. C'est le rapport qu'il a eu dans les contacts qui parfois a été, inévitablement il est attaquant, il y a eu des contacts quoi, il y a eu des contacts et la manière avec laquelle ça s'est résolu avec l'équipe adverse, à chaque fois ça s'est terminé avec un sourire et ça a été particulièrement mis en lumière avec un Neymar qui lui a tout fait pour pourrir ces relations-là. Et du coup, Kylian Mbappé, il a été solaire pour peut-être relancer quelqu'un d'une autre manière.
Je ne sais pas si on est déjà dans les prestations individuelles ou je ne sais pas quelle est. Mais déjà d'un point de vue collectif, de ce qu'on a appris dans la presse aujourd'hui et de ce qu'on a vu ce soir, c'est qu'a priori, Galtier veut jouer en 4-4 de losange maintenant. Ce soir qu'on jugera la défense face à une équipe de D6 qui n'a pas pu, parce qu'ils n'ont pas les qualités pour nous mettre en danger là-dessus. Mais ce 4-4 de losange qui est sûrement pour mettre Neymar, qui est un peu en difficulté aujourd'hui, dans les meilleures dispositions, peut-être pour qu'il se replie moins, peut-être pour qu'il touche le plus de ballons dans des positions hautes. Je ne sais pas vous, alors c'est pas ce soir qu'on jugera, mais moi ça m'inquiète beaucoup. Le 4-4 de losange, je le dis depuis des années, c'est un système qui demande une assise défensive certaine. C'est des systèmes qui sont utilisés par Simone à l'Atlético Madrid. C'est des systèmes qui sont utilisés par des coachs défensifs qui ont une assise défensive. Moi, quand on met ça, j'ai l'impression qu'on fait ce système pour un joueur qui en met forme, qui est Neymar, qui en met forme notamment parce qu'il a été infiltré avec le Brésil, etc., etc. Mais avant de parler des performances individuelles, j'ai très peur de ce système mis en place.
Répond à la question, Basto, du coup, parce qu'elle est quand même assez pertinente, hein, parce que Galtier nous a vendu un 4-3-1-2 durant plusieurs mois, et maintenant il dit qu'il veut passer en 4-4 de losange. C'est quoi la différence?
Dans 4-3-2-1, 4-3-1-2, tu as quand même des milieux qui sont excentrés pour venir aider les latéraux. Dans un 4-4 de losange, tu as clairement une position axiale, donc on va continuer vraiment avec 4 milieux qui ne sont que dans l'axe, et en transition défensive avec 2 latéraux qui sont livrés à eux-mêmes. Après, dans l'animation, on peut retrouver un 4-3-1-2, etc., etc. Mais a priori, Galtier veut mettre un 4-4 de losange. On verra bien sur la suite. C'est pas ce soir qu'on verra. On verra ce qui se passe.
Non, moi, surtout, ce que j'ai pas compris, c'est que là, on parle de 4-4 de losange, mais moi, j'avais l'impression de voir Neymar à gauche et Soler à droite. J'ai très souvent vu Soler côté droit, en fait. Donc, alors peut-être si j'ai regardé les mauvais moments du match, parce qu'il y a
c'était le cas.
Donc du coup, en fait, j'avais l'impression de voir un 4-4-2 à un moment donné, pendant un moment. Et c'est là où je ne comprends pas trop. Et c'est pour ça aussi que je n'ai pas envie de taper sur l'équipe ce soir, parce que je l'ai déjà fait de nombreuses fois auparavant. Mais du coup, moi, c'est surtout le prochain match de championnat et les prochains matchs de championnat que j'attends avant le Bayern, pour voir justement l'équipe qu'on va mettre, la tactique qu'on va avoir et le jeu qu'on va produire et l'intensité qu'on va mettre. Parce que ce soir, encore une fois, on peut critiquer les joueurs, on va le faire tout à l'heure. Mais il y a un troisième système, en fait, encore une fois. Là, il y a un 4-4-2 maintenant. Tu as Neymar à gauche, Soler à droite. T'as pas ton équipe type, puisque ben, on le sait, on va pas, bon, on va en parler tout à l'heure, mais voilà, Solaire, c'est pas au niveau. Mais l'équipe, elle change tout le temps, la compo change tout le temps, les joueurs ne sont jamais les mêmes. Je vais prendre l'exemple de Lens que je prends souvent, mais Lens, là, en Coupe de France, le match, le dernier match qu'ils ont fait, il y a quoi? Il y a un ou deux joueurs qui ont changé, deux, trois, grand max. Il y avait Thomasson qui a joué son premier match.
Il y en a beaucoup plus, Recoba. Il y en a cinq qui changent. Il y en a cinq qui changent. Ils gardent leur défense à trois et les deux milieux, mais ils changent les deux pistons et les trois mecs de devant et le gardien. Donc ils en changent six.
Ouais, j'ai vu le gardien, j'ai vu Thomasson.
Il y a Saïd qui joue pas d'habitude, il y a le Cardinal, il y a Machado, etc. Il y en a plus,
il y en a 4-5. Bon. Mais nous, on change de système, on change pas mal de joueurs. Tu as des joueurs comme Soler, comme Ekitike qui joueront sûrement pas, là, puisque là, il y a la MNM qui va revenir. Et je pense qu'ils vont quasiment jouer tous les matchs. Donc, c'est compliqué de juger ce soir. Après, on peut juger l'envie, etc. Mais pour l'animation offensive, le jeu et tout, je serais quand même un peu plus gentil que d'habitude pour ce soir, parce que bah, l'équipe, elle change tout le temps, les systèmes changent tout le temps, donc c'est compliqué. Moi, je préfère être content du retour de Nuno Mendes, content du match de Mbappé, et puis voilà. Après, il y a Vitinha qui joue un peu plus vers l'avant aussi, ça c'est bien, ça peut donner de la confiance, mais globalement, je ne vais pas tirer sur l'équipe, parce que, bah, une fois de plus, le système change, et les joueurs changent, donc...
Alors... Justement, à un moment, il va falloir dire certaines choses aussi. L'argument aurait tenu si on avait joué une grosse opposition en Ligue des Champions. Avec tout le respect que j'ai pour le Pays de Cassel, c'est quand même une équipe qui joue en 6e division. Là, je pose le débat suivant. Est-ce que Galtier n'a pas eu tort sur certains changements? Parce que, bah, je ne sais pas pour vous, mais moi, quand je vois que le premier joueur qui rentre, c'est Bernat. Ensuite, tu vois Ruiz qui rentre. Tu vois Hakimi qui rentre, alors que je vois les prestations de Hugo Ekitike et Soler que je ne trouvais pas satisfaisantes jusque-là. Je ne sais pas pour vous, mais j'étais quand même assez étonné de certains choix de coaching de Galtier. Et notamment, alors aussi sur Neymar qui s'énervait beaucoup sur la première mi-temps, qui prend un carton jaune et qui aurait pu complètement sortir de son match. Heureusement, Neymar, d'ailleurs, se calme un peu plus en deuxième mi-temps. Il faut le souligner quand même parce qu'il monte beaucoup en pression en première mi-temps. Est-ce que les choix de Galtier étaient les bons forcément, notamment en termes de coaching?
Ben moi, j'ai trouvé, enfin, toi, au niveau des changements, pour moi, c'est de la gestion de temps de jeu. Ce qui m'a pu choquer, c'est quand tu commences le match. Et alors après, tu commences le match. Enfin, pour moi, tu dois faire contre des équipes comme ça, tu dois faire un peu plus confiance aux jeunes. Pas forcément avoir une équipe de jeunes, mais en avoir au moins un, voire deux sur le terrain. Plutôt que de. Parce que là, on n'a pas encore parlé de l'autre homme du milieu, mais. Qui apporte pas grand chose lui non plus. Je voulais juste rebondir sur le système. Moi, j'avais même pas crié qu'en fait qu'on était en 4-4-2, quoi. Enfin, c'était incompréhensible le système. Et c'est un des immenses problèmes, c'est l'organisation du milieu de terrain. Le milieu de terrain, depuis 3 mois, on n'y comprend rien. On comprend rien à ce qui se passe. On a vu les joueurs de Châteauroux en train de faire des sorties de balles qui étaient très propres, réussir à.
Pas Châteauroux, arrête avec les
4-2. Oui, mais je suis mauvais pour ce genre de choses. Mais en tout cas, avoir des ressorties de balles qui étaient très propres, avec alors qui passe à une attaque aussi facilement, c'est une chose, qui passe le milieu, voire l'absence de milieu, c'est problématique. Et oui, on change le système, mais on n'y comprend toujours rien. Moi, ce match, pour moi, il est vraiment dans la continuité des autres matchs pour cet aspect. Et après, pour les choix de Galtier, je finis juste. Ouais, pour moi, c'est vraiment, tu vois, par exemple, tu as Nuno qui revient de blessure, bah, tu es obligé de le faire tourner. Et je pense que les choix ont été dictés par cette logique-là plutôt qu'une logique sportive.
Déjà, si on comprend pas le 4, si on joue pas le 4-4-2, on en reparlera dans les performances individuelles, c'est qu'on joue 4-4-1 puisqu'Ekitike n'était pas sur le terrain ce soir. D'une manière, Galtier a dit sinon qu'il voulait faire jouer l'équipe type, leur redonner niveau physique.
Oui, je sais, mais je
pour Munich. Donc, on en prend compte qu'il ne compte pas sur les jeunes et qu'il ne compte pas sur Emery. Il faut arrêter sa discussion où il dit Emery est prêt à débuter un match de Ligue des Champions.
C'est un scandale qu'il soit pas là, lui.
Il faut arrêter de croire. Alors, il l'a mis à Rennes dans un espèce de casse-pipe où ça a été pas loin d'être un des moins mauvais sur ce match. Tu ne vois pas faire une minute ce soir. Donc, il ne compte pas contre Munich sur Zaïre Emery. Il faut arrêter d'y penser. Donc, il a voulu redonner du temps de jeu à des joueurs de retour de blessure, Nuno, Renato. Il y en avait un troisième. Pembele, mais lui qui ne sera pas là contre Munich. Mais Pembele qui est de retour de blessure, qui lui sort aussi à la mi-temps. Donc, à la mi-temps ou en cours de match, c'est normal que les joueurs qui sont de retour de blessure sortent ce soir. Donc, il veut vraiment avoir un groupe de 17-18 joueurs. Il redonne du temps de jeu à Soler qui n'avait pas joué depuis longtemps. etc., etc. Donc on sait le noyau sur lequel il veut s'appuyer côté Mick, et les jeunes n'en font pas partie. Donc dans la logique de Galtier où il disait « je ne veux pas tourner parce que je veux avoir l'équipe pour Munich », il est cohérent là-dessus. Il est cohérent parce qu'il veut cette base de 17 dont les jeunes ne font pas partie.
Ouais, mais pour moi, c'est un message négatif parce que justement, je m'attendais à les voir et pour moi, ils ont un meilleur niveau que ceux qui ont joué ce soir. J'ai plus confiance à Zaïre Emery au milieu que ce soit Soler ou même Renato Sanchez. En plus, Renato Sanchez, maintenant, il joue 6. Donc voilà, je comprends rien à ce qui se passe. Quitte à ne pas forcément voir les joueurs type, parce qu'il avait annoncé ne pas faire tourner, je ne sais pas quoi, mettre une équipe type, on va dire, parce qu'il ne voulait pas négliger ce match. Je m'attendais au moins à avoir un système, soit le 3-4-1-2, soit le 4-4 de Los Angeles, mais au final, c'est un autre système. Donc non, je ne comprends pas. Et au final, on va s'appuyer sur des joueurs qui sont défaillants depuis le début de la saison. Je ne vois pas pourquoi, là, par magie, ils seront meilleurs dans les 2-3 prochains matchs et contre le Bayern. Donc pour moi, c'est incohérent. Mais bon, c'est comme ça, il va falloir faire avec.
Surtout, Réco, en termes d'adversité, tu sais très bien qu'en termes de rythme, tes joueurs auront plus de temps pour prendre des décisions, pour évoluer. C'est le contexte parfait pour un jeune, en fait. C'est vraiment parfait pour un jeune.
Oui, exactement. Maintenant, on s'appuie sur eux, on va voir ce que ça va donner par la suite. Mais moi, je suis très, très inquiet parce qu'il y en a qui sont en difficulté contre des adversaires bien inférieur, et déjà contre Châteauroux on l'avait noté, mais là en plus contre eux, il y en a qui sortent pas du lot, quoi, que ce soit Renato, que ce soit Soler. Pour moi, ça c'est inquiétant. Alors on a souvent dit que ça manquait de rythme, etc., mais au final je pense que ça manque tout juste de niveau. Après, comme j'ai dit, le système, tous les changements, etc., ça n'aide pas, mais c'est quand même inquiétant, il faut le dire, hein.
Alors justement, je vais revenir sur le commentaire de Tomso qui disait doucement, ouais, sur Warren. Ses prestations étaient pas mal pour un jeune, mais dans l'absolu, c'est moyen. Après, justement, j'allais revenir dans quel contexte il fait jouer. Warren Zaïre-Emery a fait une prestation moyenne contre Rennes qui a fait un bon match dans un contexte où les autres joueurs du PSG ne l'ont pas aidé. Là, tu gagnes 4-0 à la mi-temps. Je suis désolé, je pense que à 4-0...
même pas rentré.
Non, mais le score, je veux dire, quand tu fais rentrer à 6-0 les Garbi, Thanos, El Shaddai, c'est un peu un manque de respect. Je veux dire, tu peux les faire rentrer à partir de 4-0 à la mi-temps, comme ça tu leur donnes du temps de jeu dans un score qui est déjà acquis pour les mettre en confiance. Surtout si tu me dis que Zaïre Emery a sorti une prestation moyenne face à Rennes, et ben tu le relances, c'est l'occasion, il y a 4-0, quelle pression il va se mettre.
Mais t'as vu le reste de l'équipe, comment est-ce que à lui seul, et c'est un des meilleurs sur le terrain.
Après, je suis d'accord avec ta réaction de Tom, on ne juge pas un joueur par rapport aux autres ou par rapport à son âge. Sa performance globale, si c'était un Vitinha, un Verratti ou moi ce qu'il avait fait, c'est une prestation moyenne qui vaut 5. C'était pas mal, mais il n'y avait pas non plus quelque chose de fou. Maintenant, encore une fois, il ne rentre pas aujourd'hui. Je pense, je leur dis, il veut mettre son groupe de 16-17.
Ah, mais le truc, tu vois, il y a un plan notamment sur lui en fin de match où il est
dans
espèce doudoune, etc. Et tu vois qu'il est... Tu sens que le joueur, lui, n'a pas compris. Alors là, je suis vraiment en train de faire de la projection et tout ça. J'en sais rien, j'étais pas dans sa tête. Mais en termes de ressenti, c'est ce que j'ai vécu. Et le truc, c'est oui, il fait un match moyen contre Rennes, mais il fait un match moyen quand les autres au milieu, notamment, se comportent un peu comme des peintres. Et le truc, c'est que là, tu fais rentrer des joueurs, pour les raisons que tu as expliquées, Basto, mais il n'a pas démérité par rapport à eux. Et ça, c'est à mettre en parallèle avec la déclaration de Galtier, notamment sur Warren et Zaïre Emery, qui est un joueur sur lequel on peut compter, même pour les matchs.
Parce que tu déclares qu'il a le niveau Ligue des Champions, tu le rajoutes même, qu'il a le niveau Ligue des Champions, mais il ne joue même pas contre cette équipe. Et il ne rentre même pas, donc je comprends pas.
C'est comme s'il était puni pour sa prestation à Rennes, alors que
c'est... Ouais, c'est ça. C'est ce que je disais la dernière fois, quand il était sorti face à Châteauroux, je crois qu'il y avait un partout. C'est lui qui est sorti et un autre jeune, je crois. Et je disais, en fait, et il a mis des joueurs d'expérience. Je disais, en fait, le message est négatif. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les jeunes, là, il y a un partout à cause de vous. Et donc, du coup, on met des joueurs d'expérience. Et là, ce soir, on lui ferait payer sa prestation à Rennes, alors qu'ils ont tous été cataclysmiques. Et donc, ce soir, il ne jouerait pas.
Galtier ne fait que mentir depuis le début de l'année. Il suffit de remettre en début de saison quand il dit je vais tourner le prochain match et qu'il mettait le même 11.
On revient en 4-4-2 frileux de Galtier, sans prise de risque. Galtier n'est pas content de Ekitike, Galtier n'est pas satisfait de Pembélé. C'est facile de crier sur cela, hein, mais par contre, il y en a certains à qui il n'a pas fait de reproche, comme d'habitude.
Bah, il a ses chouchous.
Il a ses chouchous. Alors, à un moment, je veux bien que Galtier, comme je l'ai dit, tout n'est pas de son fait, tout n'est pas de sa faute. Il y a des choses... Non, mais il y a un contexte particulier au PSG qui n'aide pas. D'ailleurs, on serait capable de prolonger Messi et Ramos et de vendre Zaïre Emery et Garbi pour nous rapporter de la thune pour prolonger leur contrat. Hein. C'est pas parce qu'on a signé Gatier et Campos que Gatier et Campos vont avoir les pleins pouvoirs au PSG. Lemire, il nous a encore fait le coup qu'il a fait en 2016 et qu'il refait tous les 3 ans. Le bling-bling, c'est terminé. Maintenant, on est dans la cohérence. Et au final, il met des bâtons dans les roues aux mecs qui recrutent, qui vont échouer. Après, il va dire, bon, ben, retour au bling-bling. Regardez, quand on fait pas du bling-bling, ça échoue. On fait quoi? On fait encore cette boucle? C'est ça le message que t'envoies en fait ce soir quand tu fais pas jouer Zaïre Emery, que tu fais rentrer Garbi et que tu fais rentrer Thanos trop tard. En fait, tu leur dis, bah, vous pouvez être super bon, les remplaçants ils peuvent être nuls, et ben les remplaçants ils vont rentrer avant vous. Vous n'aurez pas de temps de jeu, même si on vous fait des grandes déclarations. Et on revient à Pochettino l'an dernier qui disait Xavi Simons, il va jouer parce qu'il y a de la place pour lui et parce qu'il le mérite et qu'il ne joue pas.
Juste un tout petit truc rapidement, Basto, regarde le dernier message d'Apollon parce que tu étais tout à fait d'accord avec ce qu'il disait juste avant.
On va rappeler qu'il n'avait pas de banc. Je ne serais plus d'accord avec Apollon là-dessus.
Oui, mais non, qui mais... a fait jouer Nkunku et Moussa Diaby, ah,
ouais, et qui a fait jouer Ikoné, etc. C'est... Et Nkunku, c'était... Et Kimpembe, c'était Unai aussi.
Mais après, enfin voilà, là on est en train de débattre des jeunes et on serait déçu si les jeunes ne jouaient pas, mais si on n'avait pas ce début d'année qui était calamiteux. Mais... Et après, et c'est pareil, ce match-là, la première demi-heure, on pourrait, bon bah tant pis, les joueurs, ouais, ils sont rentrés, ils ont un trophée, tu pourrais trouver des justifications. Le problème, c'est qu'on n'arrive pas à comprendre quel est le plan, comment est-ce qu'on veut jouer, qu'est-ce qu'on essaye de faire. Et on est là avec un mois qui arrive et avec des échéances de folie. Et on n'a aucune idée de quelles sont les
échéances. C'est parce qu'il y a ces échéances, c'est toujours rien. Pareil, les supporters flippent parce qu'on voit le bordel, les joueurs flippent parce que mentalement ils ne sont pas là, et les coachs flippent. Et là, on voit le calendrier qui aura en février, on va en parler tout à l'heure, et Galtier commence à flipper, donc il ne va pas mettre les jeunes parce qu'il faut préparer les 16-17.
Ouais, mais la raison pour laquelle on est en train de whine et de tirer à boulet rouge sur tout ce qui se passe, etc., c'est parce que nous aussi, on flippe. Nous,
bah
on,
oui, c'est ce que je dis, les supporters flippent.
Voilà,
flippe, oui.
Voilà. Et du coup on est, peut-être qu'on perd un peu en objectivité là,
en
mais
fait, je pense que le problème, c'est que Galtier
n'est pas content, je trouve quand même.
Ouais, non, mais je pense que, comme il dit Basto, en fait, Galtier, je pense qu'il clairement, il veut se. De toute façon, il a toujours aimé les groupes réduits. Il veut avoir son groupe avec ses remplaçants, ne pas forcément compter sur les jeunes, ou alors vraiment quelques-uns et de temps en temps. Le problème, c'est que les remplaçants sont défaillants, donc les jeunes ont eu un peu plus de temps de jeu. Mais au final, les échéances arrivent, et du coup, il veut redonner un peu de temps de jeu à ses remplaçants, redonner de la confiance à ses remplaçants. Et du coup, bah, au final, tes jeunes ne jouent pas. Et même nous, le problème, c'est surtout qu'on trouve que les remplaçants sont limite moins bons que les jeunes. Et il y a des remplaçants qui devraient plus jouer que des jeunes qui devraient plus jouer que ces remplaçants-là. Donc,
ouais, mais ça revient aux déclarations de Pochettino l'an dernier qui justifiait ça par le fait que ce soit des internationaux avec un statut. On les a vus, ces internationaux, on a vu leur statut, ouais. Et on les a vus.
Ces internationaux, t'as Paredes qui est remplaçant à la Juve avec un jeune du centre qui s'appelle Fagioli. T'as Gay qui est catastrophique à Everton, le supporter n'en peut plus, t'as Herrera qui joue pas un match à Bilbao.
Et il y a l'autre problème qui est la relation entre les joueurs avec ce qui est au-dessus du coach. Ça, c'est un problème qui est récurrent Paris Saint-Germain aussi, mais bon. Mais après, il y a aussi la question que je commence à me poser, c'est Soler, ça m'interroge beaucoup. En fait, ça m'interroge beaucoup. Pourquoi? Parce que c'était un joueur clé à Valence. Alors, je vais pas raconter de craque, je n'ai pas vu 10 000 matchs à Valence, mais quand je l'ai vu arriver à Paris, tout à coup, il m'a semblé comprendre le joueur. Et en fait, c'est un meneur de jeu qui va toucher très peu de ballons, mais qui va être très souvent décisif. Et c'est, enfin, quand on parle de Campos, on parle de quelqu'un qui est capable d'aller trouver la bonne perle qui correspond bien aux besoins du club. Et j'ai l'impression que là, on va tous tomber sur Soler de toute façon. On va tous tomber sur Soler. Mais j'ai l'impression que c'est juste qu'on ne sait pas jouer avec lui, qu'on ne sait pas s'organiser avec lui, qu'on ne sait pas fonctionner avec lui. Et c'est à se demander, mais pourquoi est-ce qu'on l'a recruté? Et puis si on se demande pourquoi est-ce qu'on l'a recruté, c'est pourquoi est-ce qu'on a un Campos qui est censé dénicher les bonnes perles qui vont bien avec le club.
Mais c'est surtout, j'allais te dire, concernant Soler, moi, il fait partie des joueurs que je pense que tu recrutes pour ne pas le mettre dans les bonnes dispositions et après tu lui jettes des pierres en disant oh, regarde, il est nul. Je suis d'accord avec toi, Adrien. Je veux dire, au fond, Soler, c'est quoi? C'est un joueur qui joue milieu de terrain dans un 4-3-3 à gauche dans le 4-3-3. Donc en fait, il joue dans le poste où Verratti est censé jouer. Et ouais. En fait, ce mec, tu l'as recruté pour être le remplaçant de Messi ou Neymar, c'est ça? Ouais.
Il en est capable, mais je crois qu'il a besoin
c'est pas le
des
profil.
dépositaires du jeu.
Ouais, mais c'est pas le profil après, tu vois, genre, ça revient à un débat qu'on avait eu dans un précédent live. C'est soit tu recrutes, t'as Neymar, Messi et Mbappé en attaque, soit tu recrutes des profils qui sont complémentaires pour les remplacer, soit tu recrutes des joueurs qui ont le même profil pour les remplacer quand ils sont pas là. Et en fait, en recrutant Solaire, t'as fait ni l'un ni l'autre.
Tout
Donc
à
moi, en
fait.
fait, c'est même pas. Et le problème, c'est que t'as dépensé 25 millions sur Solaire, qui, du coup, n'est pas le profil que tu recherches. Donc soit tu es malin et tu le prêtes avec option d'achat dès l'été prochain pour pas que, avec un peu de chance, il reprenne un peu de valeur si ça marche bien et que tu perdes pas trop d'argent le vendant. Soit tu le vends dès cet été, mais ça va faire comme avec Sarabia, tu vas démonter sa cote et tu dois racheter 25 pour le revendre 5.
Mais
C'est inutile en fait.
la grande question, c'est pourquoi on a recruté Campos? C'est pas Solaire en fait, parce que c'est Campos qui a choisi Solaire.
Il y
Donc
avait un
soit
Théo
Campos,
Henrique et tout, donc je sais même pas si c'est lui qui l'a choisi en fait.
Si c'est Campos, c'est Campos,
je crois que c'est
Campos
Campos.
pour Solaire.
Et le truc, c'est que si tu veux, c'est un mec qui est censé étudier les besoins d'une équipe et aller chercher les joueurs par rapport à ses besoins.
Alors,
Pourquoi il est allé chercher Solaire?
après, genre, sans tirer que des boulets
Rassure-lui,
sur. Regarde, sans tirer que des
Rassure-lui.
boulets sur Campos, il est recruté le 31 août, Solaire. Je veux dire,
Oui,
il est recruté parce qu'on s'attendait à vendre certains joueurs. Ces joueurs n'ont pas voulu être vendus, ils ont voulu être prêtés et toucher leur salaire jusqu'au bout. Citons leur nom, Herrera, Icardi, Paredes, tu vois, tous ces amoureux du club là. Donc, comme ils n'ont pas voulu être vendus parce qu'ils aiment trop le club, eh ben, du coup, ben, on n'a pas pu acheter certains joueurs. Donc, tu te retrouves le dernier jour du mercato à faire Ruiz et Solaire au prix auquel tu aurais
Ouais.
pu payer Casemiro qui est à la Manchester au final et qui aurait vraiment résolu un problème. Donc, en fait, je pense juste que ben, le problème, c'est que tu as trop attendu des ventes qui ne sont pas venues et comme tu n'as pas vendu, ben, tu as attendu au dernier moment et au dernier moment, tu as dégainé en panic buy des joueurs qui, eux, étaient disponibles pour partir comme Solaire et Ruiz. Parce que Ruiz était à un an de la fin de contrat, soit il partait le dernier jour du mercato, soit il fait les libres.
Okay.
Enfin, je sais pas, vous en pensez quoi?
Non, mais oui, et puis Solaire, on parle que c'est un cadeau pour Campos. Il y a un côté aussi Campos pour Jorge Mendes. Il y a aussi un côté Jorge Mendes-Campos qu'on voit maintenant peut-être qui s'installe, qui n'est pas forcément bon pour la suite. Solaire, oui, on voit tous le problème. Maintenant, Solaire, je pense, on va peut-être parler des top flops maintenant, mais Solaire, je reste persuadé, oui, il n'est pas fait pour ce type de PSG, mais en sortie de banc sur 10 minutes dans un match de champion, rien que pour son sens du but, si on est un peu dans un match équilibré sur des seconds ballons où il faut un mec qui vient frapper la balle, c'est pas le pire de nos remplaçants.
Ouais, mais non, mais je pense que c'est Campos s'est peut-être trompé, mais en même temps, il n'avait pas l'enveloppe. Il y avait tellement de joueurs que tu devais faire partir et tout, c'est compliqué. Tu as le fair play financier sur le dos, tu as prolongé Mbappé avec une somme astronomique, tu as toujours Messi Neymar. Neymar ne voulait pas, ne devait partir. Neymar devait partir, c'est pas un secret de Polichinelle et ça aurait libéré de la place. Je
Kimpembe a
pense
fait
qu'il
le
a
signe
pas, il
aussi.
a pas pu faire les moves qu'il voulait faire, en fait, c'est tout. Et donc au final.
Kimpembe, on l'a bloqué.
Ouais, on l'a bloqué. Ouais, c'est ça, on l'a bloqué.
Et on avait une bonne
Donc
offre de
encore une
Chelsea.
fois, j'en reviens à ce que je dis des joueurs d'habitude. Le problème, c'est plus haut, c'est tout. C'est pas Campos et Galtier. Et il a fait comme il a pu. Au final, bon, il s'est trompé avec le budget qu'il avait. Mais maintenant, il va falloir composer comme ça. Et c'est pour ça qu'en fait, moi, je préfère voir certains jeunes plus que certains remplaçants. Maintenant, je peux comprendre qu'ils fassent jouer certains remplaçants parce qu'il y a besoin qu'ils prennent confiance. Et on va avoir des gros matchs, on va avoir besoin de Solaire, on va avoir besoin de Ruiz, etc., qui reviennent à haut niveau, Renato Sanchez aussi. Mais il y a
Non,
des
mais on
choses que
n'aura
je ne
pas
comprends
besoin. De toute
pas.
façon, il va se
L'utilisation de Solaire quand
blesser.
il joue, l'utilisation de Renato Sanchez quand il joue. C'est censé être notre milieu box-to-box qui nous importe de la percussion et qui nous fait gagner des mètres. Et au final, il joue numéro 6. Donc là, on
Regarde, il
va.
y a Tomso qui nous dit que Solaire n'est pas fait pour le PSG, ça allait un peu vite pour évoluer. Ben, moi, je te dis juste, si tu continues à utiliser Solaire de cette manière-là, c'est clair qu'il n'est pas fait pour le PSG. Si tu
Bah, le
l'utilisais
problème, c'est que
dans.
Solaire, il a un jeu où il ne touche pas forcément beaucoup de ballons dans un match et où il aime avoir de l'espace devant lui avec des joueurs qui prennent la profondeur, qui proposent du mouvement. Et pour lui, les servir avec sa qualité de passe et de vision du jeu, parce qu'il contrôle, il donne la balle, tu vois. Et il tente
Oui.
des passes clés. Mais le problème, c'est qu'au PSG, on est souvent dans un entonnoir, il y a très peu de mouvement. Donc, qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? Et il touche moins de ballons en plus, alors qu'il ne touche pas forcément beaucoup de ballons, mais il en touche encore moins qu'à Valence, je pense, parce qu'il y a tellement de joueurs de ballons et qui le demandent, comme Neymar, Messi notamment, ou même Vitinha, ouais, qui touche aussi pas mal de ballons, ou Verratti. Donc du coup, il touche, je pense, moins de ballons qu'à Valence, et il a moins de solutions, moins d'espace, moins de joueurs qui proposent du mouvement. C'est assez compliqué aussi, hein. Donc
Pour
pour moi, en fait,
répondre
il n'a
à
pas le jeu du PSG, en fait, tout simplement.
Bien sûr. Alors pour répondre à Laurent qui parle de Solaire, non, c'est pas un rapport avec Gestifoot, c'est juste que c'est un choix de Campos. C'est pas en mode il appartient à Gestifoot et Jorge Mendes. Hein. C'est juste que c'est un choix de Campos, c'est lui qui a décidé de le recruter. C'est pas Antero, c'est pas Nasser, c'est pas Galtier.
Ouais, je suis d'accord avec le commentaire de Sébastien Tellet là, parce que je me suis fait la même réflexion ce week-end là, quand il y avait le match de City avec Rico Lewis, qui est monstrueux. Et à un moment donné, quand Walker il est moins bien, quand Cancelo il est moins bien, bah ils ont beau coûter des millions, ils ont beau avoir des salaires faramineux, Rico Lewis est très bon, il enchaîne, il joue, point barre.
Après, Rico, bah, je suis désolé de te le dire comme ça, mais tu compares des contextes qui sont complètement différents. T'es en train de comparer Campos à, t'es en train de comparer Campos. T'es en train de comparer Galtier à Guardiola. Et le projet de Man City à celui du PSG, demande à Galtier de faire ce que Guardiola fait à Man City. Je te garantis que s'il te dit pour le bien du club, je dois mettre ou Messi ou Neymar sur le banc pour équilibrer l'effectif, tu vas voir comment il va être reçu.
Ouais, mais Zaïre Emery, tu peux le faire jouer. C'est pas, t'enlèves pas Messi, Neymar, Mbappé, donc tu vois. Après, à un moment donné, il faut s'imposer aussi, tu vois. Quitte à te faire virer, mais montre que tu as des couronnes. T'es venu entraîner le PSG, fais tes choix, assume-les, point barre.
Ouais, mais je pense
parce qu'après, à chaque fois, sinon, on retombe dans la même chose. Au final, c'est le Qatar qui décide, c'est plus haut que ça se décide, et l'entraîneur, finalement, c'est un pion, et il fait ce qu'il veut, et au final, bah lui, il sert à rien, et chaque année, c'est la même chose. Donc, ouais, à un moment donné, tu viens, impose-toi, et point barre. Et au pire, fais virer, mais au moins, t'es resté avec tes principes et tes valeurs, tu vois.
Bien sûr, mais le problème, c'est que tu veux pas te griller derrière non plus, parce que tu dis, au moins, si tu restes un minimum poli et lisse devant les caméras, on peut accabler le PSG, et toi, derrière, tu peux retrouver facilement un travail, parce que t'as pas mal parlé de ton club pendant que tu étais en fonction de ton club, et c'est toujours le même problème.
Mais ils ont tous su rebondir. Regarde Pochettino, Emery, Tourelle.
Rico, faut voir à quel point, faut déjà voir ce qu'il y a précisément dans le contrat. Et il faut voir à quel point, toi, tu peux essayer en interne. Le truc, c'est tu peux essayer en interne et il y a des pots de banane qui arrivent. Et de toute façon, en com, tu ne pourras rien dire. C'est-à-dire que toi, tu n'as pas la lecture. Je ne parle pas forcément par rapport à Galtier. Je parle aussi par rapport aux coachs qui ont précédé. Nous, on n'a que la lecture de ce qui est su, de ce qui est communiqué. Mais ce qui se passe en interne et voire même ce qui est signé dans le contrat, on n'est pas au courant. Donc, on ne peut pas être à même de juger. Ça se trouve, le mec peut avoir les couronnes, comme tu dis, mais ne pas forcément avoir l'opportunité de les exprimer au Paris Saint-Germain, c'est tout à fait possible.
Réco, t'as dit, ils ont tous su rebondir, mais Pochettino, c'est une finale de Ligue des Champions et vice-champion avec Tottenham. Unai, c'est 3 Europa League avec Séville. Tourelle, c'est un titre de champion, une Coupe d'Allemagne avec Dortmund. Non, pas un titre de champion, mais une Coupe d'Allemagne avec Dortmund et un quart de finale de Ligue des Champions. Galtier, c'est quoi?
Bah, il a personne quand même été deux fois champion de France avec Lille Monaco face au PSG. C'est pas rien non plus.
Oui, mais personne ne le connaît hors de France.
Laurent Blanc, il a gagné avec le PSG, il aurait pu filer à Manchester.
Il a fait quoi derrière Laurent Blanc?
Il avait voulu.
Bah, il a fait quoi derrière?
Ah bah c'est lui qui a décidé de ne pas y aller. Mais il aurait pu, il avait les opportunités en tout cas.
Ah oui, mais Laurent Blanc, il est un peu plus connu par son nom d'ancien joueur déjà.
C'est vrai.
Galtier, c'est rien en tant que joueur, et c'est à l'étranger, c'est rien en tant que coach. Il n'a aucune référence en Coupe d'Europe. Donc lui qui prenne pas de risque par rapport à des tours à l'extérieur, je peux comprendre à la limite. Mais... lui, c'est la chance de sa vie, et s'il ne réussit pas là, il n'aura plus l'opportunité d'avoir une équipe de ce niveau.
C'est ça. Donc forcément, on en revient aux mêmes problématiques. Je veux dire, regarde, depuis que QSI est arrivé, on a changé le méchant coach parce que c'était la faute du coach. On a changé le directeur sportif plusieurs fois, hein, parce qu'à chaque fois, le directeur sportif, c'est un rigolo, il ne sait jamais rien faire, il achète que des joueurs pourris. D'ailleurs, les joueurs pourris, ben, on a viré toute une génération. C'était des pleureuses, des pas bons, tout ça, voilà, ouais, pas de problème, on les a virés. On a mis d'autres joueurs à leur place, on les a payés encore plus cher, on leur a mis des salaires encore plus gros pour cette fois faire mieux. Ils ont quand même fait mieux, hein, ils sont allés en finale, mais t'as pas atteint l'objectif au final. Et le seul qui a pas bougé dans tout ça, est-ce qu'on cite le nom de celui qui n'a pas bougé depuis le début du projet?
Ouais, c'est pas nécessaire.
Dans les yeux d'air à la fille.
On en parle à chaque fois, mais oui, mais le constat il est implacable. Nasser, et encore une fois, avant qu'on dise ce genre de truc, faut dire tout ce qui a été bien fait. Le fait que le Paris Saint-Germain soit devenu une marque internationale, ça arrive sous la présidence de Nasser. C'est Jean-Claude Blanc qui s'en occupe nommément. Mais ça arrive sous la présidence de Nasser. Il y a plein de choses très bien qui ont été faites. Maintenant, Nasser n'est peut-être pas fait. Mais là où il faut qu'on s'interroge, toi, plutôt que de taper sur Nasser, c'est est-ce que la culture qatari, est-ce que la culture moyenne-orientale, où ça va beaucoup plus baser sur des arrangements de trucs de famille, etc. Non, mais je pense, tu vois, je la connais pas. Je prends pas forcément de risque. Je suis pas en train de... Est-ce que c'est compatible avec la gestion d'un club de foot? Quand tu regardes, justement, tu parlais... Tout à l'heure, tu faisais la comparaison avec City. Quand ils commencent, ils essayent d'eux-mêmes, ils vont dans le mur. À un moment, ils s'en rendent compte, ils se remettent en cause. Et à ce moment-là, il y a un encadrement qui arrive pour gérer la partie football à proprement parler, qui n'a presque plus aucun lien avec les Émiratis. Avec le Qatar, ça n'arrive pas, malheureusement. Et c'est année après année, on fait le constat. Et la question que je pose, oui, parce que tu vois, enfin, le truc, c'est que si tu remplaces Nasser pour que ce soit remplacé par le frère de l'émir ou par qui sais-je, etc., etc., il est tout à fait possible que les problèmes se perdurent et que peut-être qu'il faudrait avoir, pas forcément quelqu'un qui connaît le foot, mais tu vois, enfin, il y a plein de gens qui parlent de Michel Platini, mais aussi de Nicolas Sarkozy, des personnes qui ont un charisme nécessaire pour embarquer une équipe de foot.
C'est ça, je vais dire, le problème, c'est qu'il faut que tu sois quelqu'un de suffisamment éminent dans le foot pour que l'émir te respecte suffisamment pour qu'il te donne les pleins pouvoirs. Et il y en a un. Le problème, c'est qu'il y en a un. Il lui demande même ses avis pour savoir quel coach il doit mettre. Il lui a demandé son avis et il a mis Tourelle, coach, en lui demandant son avis. Et c'est qui ce coach?
C'est Platini, j'imagine.
Ce coach. Ce coach.
Ben, c'est Guardiola. Sauf que Guardiola, il est à City.
Mais je vais vous le dire,
c'est le seul mec, ça changera rien. J'en mets pas la main à couper, mais c'est le seul, je pense, à qui. Je pense que c'est le seul à qui l'émir serait capable de lâcher du lest et de dire bah, t'as raison.
Ce qui fait à la limite, tu as Guardiola ou un Zidane, comme ça, peut-être tu lui feras confiance, mais ça reste que des hypothèses. Mais
il viendrait jamais. Il viendrait jamais avec l'environnement, en fait.
Mais Basto a raison, parce qu'on s'éloigne un peu du match, même si, contrairement à ce qu'il pensait, on a parlé plus de 20 minutes du match, on t'a bien eu, Basto. Mais du coup, j'allais faire les caméras inversées, j'ai demandé à Rekoba pour commencer quels sont ses top et flops du match, et n'hésitez pas à donner votre avis justement dans les commentaires aussi.
Mais moi, ça fait des années que je le dis, je suis certain que le PSG gagnera la Ligue des Champions quand il y aura Sarkozy. C'est un truc que je pense vraiment, et
on
je suis sûr que ça arrivera.
On va recommencer ce débat.
Non, mais on dans les commentaires. Bref, mes top et flops, je vais mettre en top Mbappé, forcément quintuplé. Voilà, une belle mentalité aussi, je reviendrai par rapport au flop, belle mentalité, même contre des petits, on va dire. Nuno Mendes qui fait tout de suite la différence quand il est là, on voit la différence directement. C'est un super joueur, le débordement qu'il met, voilà, ça va beaucoup trop vite. Et derrière, il y a la justesse de mettre un bon centre. Qui sait que je peux mettre en numéro 3. Je vais mettre Neymar, que je vais mettre aussi dans les flops, mais j'ai envie de le mettre en top quand même parce qu'il a... Je trouve qu'il y a quand même un gros volume de jeu. Il y a, en fait, c'est tout le problème Neymar, on va dire. C'est Neymar, en fait. C'est pour ça que je vais mettre top et flop. Il ne mérite pas forcément d'être dans les tops, il ne mérite pas forcément d'être dans les flops, mais j'ai envie d'en parler parce que moi qui aime Neymar, je l'aime autant que je le déteste. Parce que j'adore ce qu'il fait, mais je déteste ce qu'il fait. Il est capable de faire des choses extraordinaires que beaucoup ne savent, que tout le monde quasiment ne sait pas faire sur un terrain. Mais il a une mentalité des fois où ça suffit, on n'en peut plus en fait. Et là, en plus, tu joues contre des mecs qui t'idolâtrent, qui ont posé un jour pour venir jouer ce match. Tu ne peux pas sortir du match comme ça, même si tu prends un coup, ce n'est pas grave, prends sur toi. Enfin, il y a un moment donné, il faut avoir la mentalité adéquate. Tu as 30 balais, tu vois. Quand il était à Santos, je veux bien. Quand il était jeune encore au Barça et tout, je veux bien. Mais là, à un moment donné, tu es un des tauliers du club. C'est en plus, c'est tellement cette mentalité, elle ne convient pas, c'est que c'est Mbappé capitaine, alors que c'était censé être le projet autour de toi. Donc tu vois, c'est tout un symbole. Et moi, cette mentalité, ça me saoule. On a besoin de plus de lui, déjà sur le terrain, dans la mentalité, dans l'exemplarité. Et il y a des choses, à un moment donné, ça me saoule. Donc je le mets quand même aussi en top parce qu'il est capable de faire des choses magnifiques. Il a donné 2 passes décisives, si je ne me trompe pas. Il aurait pu mettre 3-4 buts aussi parce qu'il est bien placé, parce qu'il est capable de gestes magnifiques, mais suffisant. Suffisant, la mentalité encore une fois, suffisant, la frappe qu'il met au-dessus parce qu'il ne s'applique pas assez sur son ballon. À un moment donné, il dribble dans la surface, il la donne à Soler qui met une talonnade. Il doit frapper avant, c'est lui qui doit marquer ce but. Bon, au final, il y a but quand même, donc on va rien dire, c'est une passe décisive. Mais voilà, je le mets top et flop parce que sa mentalité, à un moment donné, ça me saoule et j'attends mieux de lui. J'espère que dans les matchs clés, il va savoir se contenir parce que ça va encore finir sur un carton rouge, il va sortir de ses gonds et ça va être encore trop facile pour les adversaires qui vont le faire sortir du match, surtout les Marseillais et les Munichois. Et derrière, en flop, je vais mettre Soler. Voilà, forcément, j'attends plus de lui. Pareil pour Renato, j'attends plus de lui. C'est des joueurs sur qui bah, Galtier compte, sur qui nous aussi on compte parce qu'on va en avoir besoin. Mais pour moi, ils ne répondent pas présent, ils ne donnent pas satisfaction. Et la vérité, c'est que c'est archi inquiétant. Voilà. Après, au moins, il y a eu des satisfactions, on va dire. J'espère qu'il va mettre Danilo, asseoir Danilo en défense centrale à 4. Et il y a le retour de Nuno Mendes et il y a toujours un grand Mbappé. Mais il y a des inquiétudes, franchement.
Tu peux pas mettre Neymar en top flop et mettre Soler en flop. Puisque tu défends Neymar sur parce qu'il fait deux passes décisives. Solaire, il fait un but. Il fait une passe D, magnifique. Et il donne un caviar à Neymar que Neymar vendange. Donc si tu mets Neymar en top flop, tu mets Solaire en top flop. Au bout d'un moment, il faut arrêter Neymar, etc., etc., etc. Extraordinaire. Heureusement qu'il fait des décalages, heureusement qu'il s'est marqué contre une D6. Ce soir, Neymar comme Solaire, je les mets qu'en flop, les deux. Peu importe qu'ils aient marqué, peu importe qu'ils aient fait des passes décisives. Solaire n'a pas le niveau contre une D6, un joueur que j'ai beaucoup défendu. Mais ce soir, techniquement, ça n'a pas été le cas. Neymar a été déplorable sur l'attitude. On pense à ses simulations en première mi-temps, sur ses coups de coude par-ci, par-là. Et même techniquement, il a un déchet fou. Cette frappe au-dessus sur le caviar de Solaire, ses contrôles ratés, ses passes ratées. Alors oui, il va faire des belles passes. Mais t'es pas en Ligue des Champions contre Munich, là. T'es contre une D6. C'est pas possible avec son statut d'avoir autant de déchets ce soir. Je ne sais pas exactement le nombre de ballons perdus, mais je pense qu'on verra demain les stats. Je pense qu'il en a plus de 30 sur un match comme ça contre une D6. Donc Neymar, c'est flop. Solaire, c'est flop. Ekitike, bah, on l'a pas vu. Donc ça va être flop. Il a dû toucher 10 ballons. Ouais, ce mec, et pareil, Ekitike, j'ai défendu son recrutement. Hein, mais ce mec ne fait pas d'appel. Ce mec n'arrive pas. Je ne sais pas, on ne le voit pas. Il est introuvable. Il ne sait pas faire d'appel. Il reste comme ça. Il attend que tout le monde fasse le jeu pour lui. Alors oui, il fait ses petites talonnades une fois par match, là, dans le sens du jeu. C'est la seule chose que je vois au PSG. Ah, il marque un peu plus ces derniers temps, tant mieux. Et un dernier flop, c'est Renato. Renato Sanchez.
T'as les 5 flops alors qu'on en a droit à 3, t'es fait.
Non, mais vas-y, fais-toi plaisir.
Du coup, sa punition. Non, Basto, ta punition, du coup, c'est que tu vas être obligé de trouver 6 tops.
Oh. D'accord, je trouverais. J'ai mis 4 flops, je trouve 4 tops.
Non, 3, tu vas
faire ça un peu. Solaire, et Renato. Renato, pendant son temps à l'infirmerie, je ne sais pas si on l'a fait regarder des matchs de foot, mais ce serait un neurochirurgien qui devrait voir parce qu'en QI foot, il ne comprend rien. Il ne comprend rien. Il joue à gauche quand il faut jouer à droite. Je ne comprends pas ce joueur. J'ai l'impression qu'il fait deux matchs par an comme Gay pouvait le faire. Alors, on retient son match contre Milan et son match contre Chelsea avec Lille, mais je ne comprends pas son QI foot. J'ai beaucoup de mal avec ce joueur, vous le savez, et ce n'est pas ce soir qui m'a rassuré contre une D6. En top, il faut que j'en trouve 4 du coup, c'est ça ou 6?
Vas-y, 3,
reste raisonnable.
Bah, Mbappé, évidemment, quintuplé, même s'il est 17 fois hors jeu dans le match, c'est pas grave, il met un quintuplé et c'est un des rares joueurs qui est au niveau qui doit être. Danilo, qui n'est pas non plus extraordinaire, mais qui lui est toujours au niveau contre quelqu'un de plus faible. Et c'est déjà fort dans cette équipe. Et on va mettre Navas qui a eu du courage pendant 90 minutes dans le froid de regarder ce spectacle sans rien pouvoir faire, ni toucher le ballon.
Moi, je vais vite faire réagir au commentaire de Gabs qui disait « faut commencer à recruter plus de Français, des joueurs qui seront prêts à se mettre pour le maillot ». Je pense que tu faisais partie des joueurs qui réclamaient à corps et à cri Renato Sanchez et Kefren Thuram l'été dernier. On en a eu un sur les deux, on voit ce que ça donne. Recruter Français pour recruter Français, ça peut être une bonne chose, mais d'abord, se préoccupons que les joueurs sont bons et ensuite de ça, on se préoccupera de leur nationalité qui correspond aux besoins de l'équipe, etc. Et donc, en fait, oui, je faisais le lien avec Renato. Moi, Renato, je ne suis pas inquiet parce que bientôt, il va se blesser, il retournera à l'infirmerie et ce ne sera plus un problème. Donc, ça, c'est pour le premier flop. Deuxième flop, je vais avoir Neymar, mais comme toi Réco, je vais le mettre en top, mais je vais avoir Neymar. Son coup de coude, il peut prendre un rouge direct. D'ailleurs, si à la VAR, je pense que c'est rouge direct. Et c'est au-delà du coup de coude, c'est ce truc. Ah, j'ai un truc qui déconne.
Non,
t'inquiète.
C'est ce. Vous m'entendez là ou pas?
Oui, nickel, continue.
Je suis là.
C'est mon truc sérieux. Je parlais de Neymar, oui, voilà, c'est le fait d'être dans quelque chose de négatif, de mauvais par rapport à des mecs qui sont juste venus là pour s'amuser, pour profiter de la soirée de leur vie. Et j'ai trouvé ça, mais c'est au-delà d'être déplorable. Je suis d'accord avec Basto sur les pertes de balles, mais après j'expliquerai pourquoi je le mets en top. Et après, sinon, en flop, j'ai envie de mettre...
Hein, fais-en 3, s'il te plaît. Fais pas une Basto.
Ouais, je vais pas faire une Basto. Là, j'essaie de me souvenir. L'étiquette. Mais bon, pour moi, voilà, j'ai pas voulu m'emballer quand il avait mis quelques buts. Je vais pas m'emballer quand il rate un match. Pour moi, j'imagine qu'il va avoir le niveau qu'il va avoir. C'est pas la peine de tirer sur ambulance en top. Donc, je vais mettre Neymar comme ça. Je vais en finir. Le souci de Neymar, c'est qu'il devait redescendre trop bas. Encore une fois. Pourquoi? Parce que t'avais un milieu qui était aux abonnés absents, à part Vitinha. Vitinha a été beaucoup trop seul et tu avais Neymar qui était obligé de redescendre trop bas. C'est bien simple, dans les 30 premières minutes, si Neymar ne repasse pas au milieu de terrain et que Vitinha n'est pas bon, devant il y a juste zéro ballon. en fait, c'est celui qui a assuré la transition. Et quand Neymar doit redescendre trop bas, bah ouais, il a beaucoup de déchets devant. Et donc, plutôt que de flopper Neymar sur le jeu, bah moi, j'ai plutôt envie de flopper le milieu dans son ensemble. Voilà. Et alors, enfin, j'ai du mal à faire sens, c'est pas grave. Top qui n'a pas été dit, pour moi, c'est Vitinha. Vitinha qui a eu une très bonne attitude en jeu, qui était pourtant complètement abandonné au milieu, qui était vraiment seul, qui a essayé de faire ce qu'il pouvait défensivement et il a fait le taf. Et c'est surtout qu'il a amélioré son ratio de passes vers l'avant. Il a trouvé des très bonnes passes vers l'avant, un très joli tir. J'ai trouvé qu'on avait un Vitinha qui nous inquiétait un petit peu, qui faisait des matchs, pas mauvais matchs, mais qui faisait des matchs mi-figue, mi-raisin depuis le début de l'année civile. Et là, on a retrouvé un très, très bon Vitinha. Et enfin, oui, il a déjà été cité, mais je vais remettre Danilo. Danilo, par qui la lumière vient. Enfin, c'est un joueur, on dit qu'il ne sait pas faire une passe, et puis tu vois la passe qu'il fait sur le troisième but. Voilà, il répond à tout le monde quand il fait ça. Il a gagné tous ses duels contre le premier attaquant. Une fois que l'attaquant a été changé, il y a eu un attaquant beaucoup plus rapide qui est revenu. Et notamment, enfin, avec José Bravo, ça aussi, il pourrait être dans les top flops, eux, parce que je crois que Daniel Leclerc est sur le point de perdre son taf sur France 2. Il pourrait tout à fait postuler, il n'y a pas de problème. Ils sont tout à fait dans le ton des matchs commentés sur France 2. Et donc oui, il y a l'attaquant qui arrive à passer Danilo, mais sauf que non, il n'arrive pas à passer Danilo, c'est juste que Danilo ne va pas faire le truc de plus parce qu'il a vu que Navas était en train de sortir. C'est-à-dire que c'est un joueur qui défend avec son cerveau. Oui, il a des problèmes de vitesse. Oui, il n'a pas le niveau pour être titulaire indiscutable dans un top club. Il est niveau juste en dessous. Mais stop, le Danilo bashing, il a plus que sa place sur le banc. Et quand on voit le comportement de certains centraux à l'heure actuelle, et c'est pas normal, hein, parce que Danilo ne devrait pas être la réponse dans un club comme le Paris Saint-Germain. Il devrait être une très bonne réponse de banc. Ça devrait être le premier remplaçant sur le banc. Mais à l'heure actuelle, quand on voit le niveau de certains, par exemple, je dis ça comme ça, moi, il m'a beaucoup plus rassuré que Marquinhos sur ce soir que Marquinhos depuis le début.
Je veux l'avis de tonton sur Neymar.
Neymar, j'allais dire, la première mi-temps, j'ai pas aimé l'attitude, tu vois, on est retombé, tu sais, dans ces fameux travers qu'on parlait en avant-match de Monaco, Basto, je te disais, c'est le genre de match où Neymar, il va s'énerver, il va prendre un carton jaune très vite et il va sortir de son match, et c'est ce qu'il a fait en première mi-temps. Mais en seconde, il s'est quand même rattrapé, tu vois, faut le dire, parce que finalement, il a pas pris son deuxième jaune, et il a arrêté ses excès d'humeur, d'attitude, je sais pas ce qu'il s'est dit dans le vestiaire, hein. Peut-être que dans le vestiaire, on l'a dit, redescends, calme-toi, et ça a marché en tout cas. Donc moi je le mets en flop en ce qui me concerne, Neymar. Je vais le mettre avec Soler et je vais le mettre avec Ekitike. Parce que Ekitike, quasi invisible, ça n'a pas été facile pour lui. Et d'habitude, il a un registre où il décroche beaucoup et il ne l'a pas fait ce soir. Il ne s'est pas
posé plus que ça. A priori, le staff lui a demandé d'arrêter de décrocher et d'essayer d'aller en profondeur. Le problème, c'est qu'il n'a pas décroché, mais il n'est pas allé en profondeur non plus.
C'est ça, il s'est comporté comme un pivot, sauf que ce n'est pas un pivot, je veux dire, je suis désolé, mais avec le physique qu'il a, le moindre défenseur lui met un coup d'épaule et au revoir le pivot. Donc, pas aller sur ce match. Il était pourtant sur une belle série récemment, mais je n'ai pas aimé ce soir et je pense que j'ai le droit de le dire. Et Soler, parce que il y a un truc que je trouve fascinant avec ce joueur, il a cette capacité à stater dans un match où je le trouve pas bon. Où je le trouve exécrable. Je veux dire, je suis désolé, mais dans la première mi-temps, à un moment, il y a un truc, ça m'a fait crier instinctivement sans faire exprès. Le moment où il récupère un ballon, il peut la mettre à Neymar, il peut la mettre à Mbappé, il peut la décaler à gauche, il peut tirer. Et en fait, il fait une passe entre Neymar et Mbappé dégueulasse en première touche. Tu sais, on aurait dit que c'était lui, le joueur de l'USP de Kassel, qui a stressé de jouer contre le PSG. Et non, et je veux dire, et on a dit, hein, c'est pas que de la faute de Soler, il est mal utilisé, tout ce que tu veux, mais ce soir, fan de sa prestation.
C'était dur.
Et pour les tops, je vais mettre Vitinha, parce que comme disait Drias, et je rejoins totalement là-dessus, on a pas mal critiqué Vitinha cette saison sur le fait qu'il prenait pas assez de risques, beaucoup de passes latérales ou en retrait. Là, pour une fois, ouais, c'est une des 6, mais au moins, il a pris les risques, il s'est dit, j'ai tenté des passes vers l'avant. Alors, il rate quand même son premier but qui était quand même...
C'est pas nouveau ça, hein. Ça fait beaucoup de fois qu'il rate son premier but malheureusement.
Exactement, mais par contre parallèlement j'ai envie de souligner justement le fait que pour une fois il a pris du risque dans son jeu, il a proposé des passes plus verticales que d'habitude et il s'est essayé au jeu offensif plus que d'habitude. Et en dernier top, je vais mettre Mbappé hein, parce que forcément un premier joueur du PSG à mettre un quintuplé, match appliqué, match sérieux. On va aller vite, hein. C'est facile de le nommer top du match.
Ouais.
Est-ce qu'il y avait quelque chose sur lequel vous voulez revenir sur le match tant qu'on est encore en live?
Non, pas particulièrement. Enfin, moi, je voulais juste revenir sur. J'ai hâte de comprendre ce qui se passe au milieu du terrain du Paris Saint-Germain parce que là, j'en ai vraiment ras-le-bol et ça devient dur de voir les matchs. En fait, c'est une bouillabaisse, pour reprendre une expression, parce qu'on va jouer Marseille ce week-end, donc une bouillabaisse tactique.
On ne joue pas Marseille du tout ce week-end. On jouera puis Toulouse.
Ce genre de choses. Mais toujours est-il, c'est une bouillabaisse tactique. C'est complètement indigeste ce qu'on est en train de produire au milieu. Et j'espère qu'on trouvera des réponses vite parce que ça commence à être vraiment préoccupant.
Non, on peut juste parler du tirage au sort et du mois de février qui nous attend, peut-être rapidement.
Vas-y, si tu veux, bah, s'il te plaît, évoquer le mois de février qui nous attend, les 17 jours qui vont déterminer si Galtier sera l'entraîneur du Paris Saint-Germain l'an prochain ou pas. Hein, parce qu'on ne va pas se mentir, hein, clairement, s'il rate ces 17 jours-là, il y a peu de chances qu'il soit là l'an prochain.
Donc, on joue Marseille en coupe, puis on va à Monaco, puis on joue Munich, puis on revient à Marseille, puis on joue Lille. Puis on rejoue Munich. Maintenant, la question est, est-ce qu'on espère sauvegarder un des trophées, ne serait-ce que la Ligue 1, à l'arrache, perdre en coupe, perdre en huitième de Ligue des Champions, et on continue sur le même move? Ou est-ce qu'il faut mieux pas, c'est terrible d'en être là, ou est-ce qu'il faut mieux pas une implosion totale, faire la première saison blanche, et espérer un changement en sachant qu'il n'y en aura sûrement pas quand même?
Ouais, mais c'est très risqué, ça, Basto, parce que ce qui risque de se passer dans ce cas-là, c'est effectivement Galtier et Campos s'en vont, et c'est Nasser qui te refait le même speech.
Imagine le scénario, c'est vrai que là où on sera fixé définitivement, et on peut arrêter, on peut ranger nos souliers, arrêter de suivre ce club, aller regarder les Gobelins ou le PFC. D'ailleurs, le PFC joue Annecy, il peut aller en quart de finale de la Coupe de France. Si vous voulez changer de club à Paris, il est encore temps. Imaginons le PSG ne gagne rien cette année, l'OM fait un doublé Coupe Championnat. Si là, il n'y a pas de changement du côté de Nasser et tout, on sait que c'est fini définitivement. Parce qu'il n'y a pas pire humiliation. On ne peut pas faire pire à ce moment-là. Donc on sera fixé au moins. Soyons fixés dès maintenant.
Par contre, j'allais répondre à Apollon qui parlait de Skriniar pour parler vite fait de Skriniar. Il a été exclu de son match ce soir avec l'Inter Milan. Et son agent a eu la finesse et la délicatesse de dire qu'il ne prolongerait pas l'Inter Milan suite à l'exclusion du joueur en plein match. Pépite. Vous faites ce que vous voulez de cette info. Peut-être que Skriniar est déjà dans l'avion et va passer sa visite médicale. Hein.
A priori, Skriniar ne veut pas signer non plus cet hiver au PSG parce qu'il veut sa grosse prime cet été.
Voilà. Non, mais après, j'allais dire, je ne suis pas dans l'insider. Il y a des gens qui ne croient pas au Père Noël, mais ils croient aux insiders. Moi, je ne suis pas dans cette catégorie. Je ne crois ni au Père Noël, ni aux insiders. Mais bon, sait-on jamais. Hein. Peut-être que Skriniar est déjà dans l'avion. Hein. C'est tout le mal qu'on nous souhaite. Mais bon.
Ouais, sinon, pour revenir là-dessus. C'est dur à analyser pour Skriniar. On ne sait pas trop s'il va venir cet été ou cet hiver. Visiblement, ça se dirige plus quand même pour cet été, libre, parce que Paris n'a pas les finances pour, parce que lui, il veut peut-être finir aussi la saison avec l'Inter et prendre son chèque. Voilà, on verra. Mais après, comme j'ai dit, si on joue à 4, ce n'est pas forcément une nécessité, même si c'est quand même mieux de l'avoir, forcément. Mais si on joue à 4, sachant que Danilo est performant, que Kimpembe devrait revenir, bon, a priori, tu peux avoir avec Marquinhos une rotation.
À voir ça pour Hakimi.
Ouais, non, mais oui, non, mais c'est clair. Mais en tout cas,
concrètement, il a quoi? Il revient quand?
Ouais, on sait pas. Mais ce que je veux dire par là, c'est que tu as quand même moins une nécessité de prendre Skriniar cet hiver si tu joues à 4. Voilà. Après, bon, on verra, ça peut se faire. Mais j'ai l'impression que ça se dirige quand même pour qu'il arrive cet été. Maintenant, pour le calendrier, moi, je le répète depuis un moment, parce que ce calendrier-là, il est connu depuis un moment. Maintenant, l'adversaire qui s'est présenté, du coup, c'est le Bayern. Et en coupe, c'est Marseille. Donc ça en fait encore un plus gros calendrier. Et on n'a toujours rien de rassurant. Les matchs, on avait dit, bon, la Coupe du Monde, machin, il y a eu le premier match, ça s'enchaîne, Angers, etc. Rien de rassurant. La Coupe de France, elle ne nous aide pas non plus. En même temps, voilà, c'est normal, c'est un petit niveau. Donc forcément, on va juste passer au match suivant. Mais on n'a aucune certitude, que ce soit dans le jeu, que ce soit les profils individuels, chacun. Les remplaçants, les jeunes, on ne sait rien. Donc, c'est juste inquiétant, en fait, c'est tout. C'est inquiétant.
Très rapidement, il y a Obito Chiwa, ce qui nous dit que Kimpembe revient ce week-end. Tu as vu la news où, Obito, si tu peux nous le dire vite fait, ce serait cool.
Non, peut-être qu'il a vu sur Twitter, mais je t'avoue que je n'ai pas encore vu.
Le communiqué du PSG, c'est que Verratti reprend l'entraînement collectif avec Paris cette semaine, enfin la semaine prochaine. Et Kimpembe en reprise individuelle, donc pas encore entraînement collectif. Okay, comme voilà, dit, il y a bien au moins 10 jours dans l'individuel. Le temps qu'il revienne au collectif qui joue, ça va être juste pour l'aller contre Munich, à mon avis. Peut-être le retour.
Je vais dire l'aller contre Munich.
À mon avis, c'est mort.
Ouais, mauvaise idée. Là, je pense que tu pars plus sur un Danilo Marquinhos hein, en défense.
Ça va être Marquinhos Ramos qui sort jamais, Ramos.
Non, mais ouais, c'est ça, non, mais il va gentiment sortir, hein, parce que je vois le commentaire de Thompson. Oui, c'est pour ça que j'ai pas parlé de Ramos. Hein. J'ai parlé de Danilo Kimpembe avec Skriniar éventuellement, et pas de Ramos, parce que je compte absolument pas sur Ramos. C'est, s'il joue, ça va être l'autoroute.
Si a du courage pour gagner garder la monétisation, bah forcément tu mets pas Ramos titulaire contre le Bayern. Mais après, là on est sur un autre débat.
Ouais.
Bon, en tout cas, merci de nous avoir suivis pendant ce live. À part si vous voulez rajouter quelque chose une dernière fois.
Non, on verra les matchs de championnat là qui vont arriver, les 2-3 matchs. Ouais, mais... On aura plus, je pense, collectivement sur le système, etc. Et l'envie des joueurs. Je pense qu'avec le retour de la MNM, ça va se mettre en place. On verra ce que ça va donner. Et là, je pense qu'on pourra être inquiet ou pas pour le Bayern.
Je pense qu'on n'en saura rien parce qu'on joue Reims. Moi-même, Firenze, c'est top. On joue Reims, Montpellier et Toulouse. On va voir ce nouveau système qui va peut-être marcher contre ces équipes. Et puis d'un coup, on va devoir préparer Munich avec ce système et on va jouer à Marseille, Monaco et Munich. Alors qu'on aura joué Reims, Toulouse et Montpellier. Je ne sais pas si on pourra en tirer quelque chose de positif, de négatif sûrement, de positif, je ne sais pas. C'est compliqué là.
En tout cas, merci à tous d'avoir suivi ce live. N'hésitez pas à mettre un maximum de pouces sur ce live, à part si vous voulez voir Nasser, coach de cette équipe, avec l'étang adjoint, avec Kurzawa titulaire, Icardi, Paredes et Herrera au milieu de terrain. N'hésitez pas à faire un maximum, développer la chaîne. Merci à tous d'avoir participé. Et n'oubliez pas, ici, c'est Paris.
Ciao, ciao.